L'insurgé de Jules Vallès. Chapitre 1. La conférence ou naissance d'un tribun. Je traverse la salle, me voici arrivé sur l'estrade. Je prends du temps, pose mon chapeau sur une chaise, jette mon paletot sur un piano qui est derrière moi, tire mes gants lentement, tourne la cuillère dans le verre d'eau sucrée, avec la gravité d'un sorcier qui lit dans le marc de café, et je commence, pas plus embarrassé que si je pérorais à la crèmerie. Mesdames, messieurs, j'ai aperçu dans l'auditoire des visages amis, je les regarde, je m'adresse à eux, et les mots sortent tout seuls, portés par ma voix forte jusqu'au fond de la salle. C'est la première fois que je parle en public depuis le 2 décembre. Ce matin-là, je montais sur les bancs et sur les bornes pour apostropher la foule et crier « Aux armes !» Je haranguais un troupeau d'inconnus qui passèrent sans s'arrêter. Aujourd'hui, je suis en habit noir devant des parvenus endimanchés qui se figurent avoir fait acte d'audace parce qu'ils sont venus pour entendre lire des vers. Vont-ils me comprendre et m'écouter ? On déteste Napoléon dans ce monde de puritains, mais on n'aime pas les misérables dont le style sent la poudre de juin plus que celle du coup d'État. Ces vestales à moustache grise de la tradition républicaine sont, comme était Robespierre et tous les sous-maximiliens, leurs ancêtres, des bridoisons austères de la forme classique. Et les cravatés de blanc qui sont là et qui m'ont lu ont été déroutés les cuistres par mes attaques d'irréguliers, déchaînés moins contre le buste de Badinguet que contre la carcasse de la société tout entière telle qu'elle est bâtie la gueuse, qui n'a que du plomb de caserne à jeter dans le sillon où les pauvres se tordent de douleur et meurent de faim, crapauds à qui le tranchant du soc a coupé les pattes et qui ne peuvent même pas faire résonner dans la nuit de leur vie leur note désolée et solitaire. Seulement à cette heure, c'est le dédain, plus que le désespoir, qui gonfle mon cœur et le fait éclater en phrases que je crois éloquentes. Dans le silence, il me paraît qu'elles frappent juste et luisent clair. Mais elles ne sont pas barbelées de haine. Ce n'est point la générale, c'est la charge que je bats en tapin, échappé aux horreurs d'un siège et qui portait tout d'un coup en pleine lumière, crâne et gouailleur, riant au nez de l'ennemi, se moquant même des ordres de l'officier et de la consigne et de la discipline, jette son képi d'immatriculé dans le fossé, déchire ses chevrons et tambourine la diane de l'ironie avec l'enthousiasme des musiciens de balaclava. Ma foi, pendant que j'y suis, je m'en vais leur dégoiser tout ce qui m'étouffe. J'oublie Balzac mort pour parler des vivants. J'oublie même d'insulter l'Empire et j'agite devant ces bourgeois non point seulement le drapeau rouge, mais aussi le drapeau noir. Je sens ma pensée monter et ma poitrine s'élargir. Je respire enfin à plein poumon. J'en ai, tout en parlant, des frémissements d'orgueil. J'éprouve une joie presque charnelle. Il me semble que mon geste n'avait jamais été libre avant aujourd'hui et qu'il pèse du haut de ma sincérité sur ces têtes qui, tournées vers moi, me fixent, les lèvres entrouvertes et le regard tendu. Je tiens ces gens-là dans la paume de ma main et je les brutalise au hasard de l'inspiration. Comment ne se fâche-t-il pas ? C'est que j'ai gardé tout mon sang-froid et que pour faire trou dans ses cervelles, j'ai emmanché mon arme comme un poignard de tragédie grecque. Je les ai éclaboussés de latin, j'ai grand-siéclisé ma parole. Ces imbéciles me laissent insulter leur religion et leur doctrine parce que je le fais dans un langage qui respecte leur rhétorique et que prônent les maîtres du barreau et les professeurs d'humanité. C'est entre deux périodes à la vile main que je glisse un mot de réfractaire, cru et cruel, et je ne laisse pas le temps de crier. Puis il y en a que je terrorise. Tout à l'heure, je venais de crever un de leurs préjugés avec une phrase méchante comme un couteau rouillé. J'ai vu toute une famille s'étonner, se récrier. Le père cherchait son pardessus, la fille rajustait son châle. Alors j'ai dirigé de ce côté mon œil dur et je les ai cloués sur leur banc d'un regard chargé de menaces. Ils se sont rassis épouvantés. Et j'ai failli pouffer de rire. Mais il est temps de conclure. Il me faut ma péroraison. Je la brûle. L'aiguille a fait son tour. Je viens de finir mon heure et de commencer ma vie. On a parlé de moi. Pendant 24 heures dans quelques bureaux de journaux et quelques cafés du boulevard, ces 24 heures-là suffisent si je suis vraiment bien bâti et bien trempé. Je n'ai plus la tête dans un sac, le cou dans un étau. Allons, la journée a été bonne, et ma salive a nettoyé la crasse des dernières années, comme le sang de Poupard avait lavé la crotte de notre jeunesse. Je pouvais ne jamais saisir cette occasion. Elle m'échappait, en tout cas, si j'étais resté de l'autre côté de l'eau, si seulement je n'avais pas fréquenté l'estaminet où vont quelques plumitifs ambitieux. C'est parce que je suis venu manger à cette table d'hôte, parce que je me suis grisé quelquefois et qu'étant gris, j'ai eu de l'audace et de l'entrain. C'est parce que je suis sorti de la vie de travail acharné et morne pour flâner avec ces flâneurs que je suis parvenu enfin à trouver l'ombre et à déchirer le silence.